Donc, selon les travaux de Jude Roberts et de Mark Bould et Cheryl Vind, certains textes de fantasy contemporains, commentaires politiques, notamment comme le mentionne Patricia Woolf dans Feminine Fictions, cette littérature, de par les transgressions de la réalité consensuelle qu'elle propose, aurait la capacité de décentrer et de subvertir les concepts de genre et d'identité. Donc, pour Catherine Hume et Brian Atterbury, ces transgressions incluent, entre autres, l'usage de la magie, qui est codifié par des normes rigides et qui est un fait physique, a physical fact, dans l'univers où elle prend forme. Donc, Atterbury rappelle toutefois dans Strategies of Fantasy que le code générique de la magie, once admitted to the fictional world, works to redefine everything else. Donc, par conséquent, nous avancerons ici que la magie peut être redéployée en fantasy, queerisée, afin de questionner et déstabiliser la division entre le féminin et le masculin, de même que la notion d'identité fixe. Donc, parce que la magie permettrait le brouillage et la redéfinition des frontières traditionnelles des identités, elle posséderait en effet un potentiel subversif. Donc, nous proposons donc d'étudier le true name, qui est une des manières dont le trope de la magie peut se manifester en fantasy. Le true name, donc, beloved, de la figure énigmatique du fool. Donc, le fool est un personnage qui incarne tant des identités féminines que masculines et qui apparaît dans la série de fantasy The Realm of the Elderlings de l'autrice américaine Robin Hobb. Donc, Jude Roberts décrit cette série dans son article Legislation, Social Pressure and the Body comme, et je cite, « a wide body of work which engages with issues relating to gender identity and gender politics. It explores masculinity and gender ambiguity in relation to state power. » Donc, The Realm of the Elderlings, vous l'aurez compris, c'est une série très vaste, c'est difficilement résumable en une phrase. C'est composé notamment de 5 séries séparées qui vont se recouper entre elles. Donc, rapidement, la façon que j'ai trouvée pour définir ou donner une définition de la série, c'est ça va raconter, dans le fond, les événements qui entourent le retour des dragons et des Elderlings et du décentrement de l'hégémonie humaine que ça va créer, essentiellement. Donc, la question du fool a suscité plusieurs polémiques, tant, en fait, chez les autres personnages que chez les lectrices-lecteurs. Donc, il nous a paru pertinent de nous intéresser à son illisibilité identitaire, soit à son impossibilité d'être lu, interprété, fixé en fonction des codes et des signes qui sont socialement associés aux oppositions binaires entre le féminin et le masculin, donc entre l'homme et la femme. Donc, mentionnons toutefois que cette illisibilité identitaire contiendrait paradoxalement en elle-même les conditions de sa lisibilité. Donc, les normes féminines et masculines sont présentes, mais mélangées, mouvantes et brouillées. Donc, dans le cadre de cette communication, nous chercherons à explorer comment l'usage du code générique du true name pourrait contribuer à ce brouillage. Donc, ce type de magie pourrait-il permettre de jouer du genre, soit de défier, de mettre en lumière et de dépasser les normes genrées et la conception de l'identité fixe? Donc, nous attarderons plus spécifiquement sur la manière dont la magie performative qui est issue du true name Beloved contribuerait à la subversion de l'identité, de l'idée d'un genre fixe, pardon, en brouillant les frontières entre le féminin et le masculin, de même qu'à la configuration du concept d'identité unique et stable aux frontières étanches. Dans The Encyclopedia of Fantasy, David Langforth définit le true name comme a shorthand for deep understanding of the name thing's essence, identity, or Achilles' heel. Donc, sur cette convention de la magie, Atterbury ajoute, et je cite, The knowledge of names gives power over the thus named things. La magie, renchérit-il, is indeed not merely codified. It is itself a code as old as language. It is as rule-bound as language. Donc, cette règle du true name est continuellement représentée et répétée dans la série The Realm of the Elderlings et devient une norme généralisée, une loi de la magie à laquelle tous les personnages doivent se ployer. Donc, l'esprit de Maltha, qui est déchiré en 2 dragons qui luttent pour sa possession, est reconstitué en une identité stable par Amber. Amber, qui est une identité féminine du fool, je reviendrai. Le jeune Wintrow ramène le roi des pirates Kennet de la mort en prononçant son nom. et Fitz, batteur de la lignée royale des Falseuses, narrateur principal et meilleur ami du fou, est séparé du loup Nighteye avec lequel son identité a fusionné et est forcé à réintégrer sa chair morte par Beric qui l'appelle. Donc, par ailleurs, Fitz démontre une conscience particulièrement aiguë du pouvoir que renferme la connaissance du true name d'autrui. Et là, ça devrait marcher. What is your name? Your real name. Ha! His. Et là, on parle du fool ici. His manner was suddenly grave. He took a slow breath. My name. As in one mother my mother called me at my birth. I suddenly realized the immensity of what I had asked him. It was the old naming magic. If I know how you are truly named, I have power over you. If I tell you my name, I grant you that power. The name my mother gave me, I give now to you to call me by in private. He took a breath and turned back to the fire. He closed his eyes again, but his grin grew even wider. Beloved. She called me only beloved. Fool, I protested. He laughed. A deep chuckle, a rich chuckle of pure enjoyment, completely pleased with himself. As she did, he insisted, Fool, I'm serious. Donc le true name du fool est à la fois révélé et masqué par l'humour, qui est une stratégie qui est systématiquement employée au fil de la série pour visibiliser et dissimuler, pour rendre aiguë certaines réalités qui sont énoncées par le fool. Donc Fitz, par conséquent, croit que son ami se moque de lui, s'inquiète de l'homosexualité dont il pourrait être taxé s'il avait le malheur d'employer ce prénom-là. Donc la menace de l'homosexualité pour l'identité masculine hétéronormée de Fitz est d'ailleurs soulignée à plusieurs reprises dans la série qui présente l'acceptation progressive du narrateur d'identité non hétéronormative. Donc, Fitz souligne le pouvoir que recèle le langage et plus particulièrement le naming, la dénomination. Donc, la puissance qui en découle relève du contrôle, de l'essence ou l'identité, pour reprendre les termes de Langford, d'une domination instituée dans et par les mots, la parole. Donc, le nom chez Hub n'est toutefois pas uniquement un outil d'oppression. Donc, créateur, il permet aussi de faire apparaître, de donner une forme lisible à celui, celle ou ciel qu'il désigne. Donc, la dénomination devient énonciation performative, celle qui produit ce qu'elle énonce, lui donne une existence, une identité, et qui ne peut être séparée de la notion d'autorité. Donc, en effet, la performativité du langage étant éminemment contextuelle, tous et toutes ne peuvent s'approprier son pouvoir. Le contexte de l'énonciation prend alors une place importante dans la capacité de la parole à donner forme, à créer une identité. Ainsi le souligne The Fool dans ses mots qui sont adressés à Fitz. The lords and ladies never even saw me. They only saw Chester and a freak. I deliberately took no name when I first arrived here. They heard my jokes and saw my capas, but they never really saw me. You made it a name, the fool, and you saw me. You met my eyes when other looked aside, disconcerted. L'importance du foyer du regard, du contexte dans lequel est formée l'identité, est mise en relief par la répétition, par trois fois, de la formule « saw me », « me voir »,« voir », »,« distinguer », »,« regarder cette forme sans nom » plutôt que « détourner les yeux » devant son illisibilité. L'absence d'un nom a pour conséquence de brouiller, de créer une forme floue, une forme folle, « a freak », un fou dont la silhouette échappe à l'entendement. Pour que le sujet advienne, donc pour que le « je » soit configuré en un arrangement compréhensible, accessible et légitime, il faut un prénom que seul le narrateur possède l'autorité discursive d'octroyer. Ceci n'est pas sans évoquer la conceptualisation du nom que Judith Butler articule dans « Ces corps qui comptent ». Dans cet ouvrage, la philosophe mentionne que pour Lacan, le nom possède une fonction d'attribution de l'identité. Forme de pacte, d'accord social, de loi, il est investi du pouvoir de rendre durable et reconnaissable ce qu'il nomme. À cette théorisation du prénom, Butler ajoute que, et je cite, « Le nom ne se contente pas d'être le support, la manifestation de la loi. Il l'institue. Dans la mesure où le nom garantit et structure le sujet nommé, lui conférant une stabilité et une légitimité sociale, il semble détenir le pouvoir d'opérer la subjectification. Il produit le sujet sur la base d'une interdiction, d'un ensemble de lois qui différencient les sujets à travers la réglementation obligatoire des positions sociales sexuées. Fin de la citation. Dans ce contexte, parce qu'elle fait office de loi au sein de la diégèse, l'autorité narrative de Fitz contribue à faire apparaître le personnage du fou, donc à le rendre visible et compréhensible en lui octroyant une identité stable, lisible et relativement légitime. Donc, ce faisant, la dénomination « fou » qui est octroyée par le narrateur contribue parallèlement à donner un genre au personnage, masculin dans ce cas-ci, même si ça peut être discutable, les personnages ne s'entendent pas tout le temps sur le genre du fou, même sous cette identité-là. Donc, car tant le nom propre que les désignations et les pronoms impliquent et modèlent implicitement un corps sexué. Comme l'explique Paul B. Preciado dans « Manifeste contrat sexuel », le nom d'un sujet, manifestation de son identité, est une manière par laquelle le genre marque et produit celui-ci comme genré. Les corps sont ainsi, et je cite, « réappropriés comme féminins ou masculins dans le système social ». Fin de la citation, ce qui n'est pas sans faire écho à la réglementation obligatoire des positions sociales sexuées telles que définies par Butler. Tant nom propre que through name peuvent être considérés comme des actes de langage, des performatifs, contribuant à la production unique et stable, genrée. Donc, d'une identité unique et stable et genrée. J'ai sauté un mot. Donc, tous deux font office de loi. Donc, parallèlement, dans The Realm of the Elderlings, la magie, à l'instar du langage, et on retrouve le parallèle que j'ai souligné et que Atterbury souligne d'ailleurs au début de ma communication. Donc, la magie peut être envisagée comme un lieu de pouvoir et de réitération de la loi, une instance de contrôle des identités réelles, vraies, et de substantivation des sujets légitimes. Donc, il est par ailleurs intéressant de souligner que la puissante magie de l'art, « the skill » en anglais, de laquelle découle l'usage du « through name », est intimement liée au pouvoir royal. Donc, ses secrets sont jalousement gardés par la lignée souveraine des Forcieuses, qui, elle seule, en connaît l'usage. Donc, on peut ainsi déceler un fort parallèle à l'intérieur de la série entre pouvoir de l'État, magie institutionnalisée, légitime, et contrôle des identités. Comme nous l'avons vu dans la définition du true name, identité et essence, substance, sont intimement liées. Donc, la connaissance d'un nom relève de la compréhension du vrai, de l'essence de l'identité. Toutefois, parce qu'elle découle aussi d'une conception de l'autre qui est octroyée par une autorité discursive, royale, celle de celui, celle ou celle qui maîtrise la magie du skill et ses lois, et qui a droit de parole, donc, elle contribue paradoxalement à imposer une forme au personnage interpellé. Donc, lorsque le prince Dutiful, par exemple, s'écarte et s'effrite dans le courant du skill, qui arrive assez régulièrement de s'égarer dans le skill au cours de la série, Fitz ne parvient en fait à reforger l'identité « self » du garçon qu'en faisant appel à une perception approximative qu'il a de lui. Donc, tout en prononçant son nom à répétition. Répétition qui va contribuer à forger et à stabiliser l'identité du prince. « Dutiful, dutiful, dutiful ». Donc, « dutiful », une fois recentré, va terminer sa reconstitution et la modeler d'une manière légèrement différente de celle qui avait été envisagée par Fitz, preuve, en fait, qu'il est tout de même possible de jouer à l'intérieur du cadre identitaire qui est imposé. Donc, la répétition peut être réappropriée. Cependant, dans le cas du personnage du fou, l'autorité narrative de Fitz ne fait pas le poids en comparaison à ce que je vais nommer ici la loi du true name. Donc, Beloved, qui est le nom donné à la naissance, comme vous avez vu dans la première citation, qui était donnée à la naissance par la mère. Donc, The Fool, Amber, Lord Golden, Mage Grey, qui sont d'autres noms employés par le personnage pour désigner ses différentes identités, ne seront jamais imprégnés dans la diégèse du pouvoir de ce through name, le seul qui permette à Fitz de saisir, d'atteindre l'identité de son ami. Donc, or, Beloved est à bien des égards un prénom problématique. Donc, c'est un adjectif nominalisé, donc il occupe au niveau grammatical la fonction d'un nom propre, tout en ayant la forme d'un adjectif en ED. Donc, notons ici que la finale en ED est d'ailleurs employée pour désigner quelque chose de temporaire, soit un sentiment ou une émotion, et non pas un objet ou une situation, un état, quelque chose de stable. Donc, par ailleurs, l'adjectif « beloved » est invariable, il ne s'accorde ni en genre ni en nombre, ou, selon les grammaires, va s'adapter plutôt en anglais au genre du sujet auquel il se rapporte. Sujet qui, dans ce cas-ci, n'a pas de genre stable. Donc, doublement liminaire, le true name beloved est à la base imprégné d'une mouvance qui est ironiquement contradictoire. Car si le mouvement devient inhérent à une chose, une définition, on peut se demander s'il est véritable fluidité et si la définition, en fixant, ne rend pas le mouvement paradoxalement caduc. Donc, The Fool énonce même cette contradiction en mentionnant que, certes, Yel a un through name, que ce through name permet de connaître qui Yel est, mais que words do not contain or define any persons. Donc, ainsi, le nom Beloved n'est pas en totale conformité, mais n'est pas non plus en infraction vis-à-vis de la loi de la magie, du through name et du nom genré. Donc, va se créer alors plutôt un espace de flou, un entre-deux qui va permettre la réarticulation. Donc, comme le mentionne Judith Butler, et je cite, « Là où est attendue une uniformité du sujet, peut se produire le refus de la loi, qui met subtilement en question la légitimité du commandement, réarticulant la loi contre l'autorité qui la prononce. L'interpellation perd ainsi son statut de simple performatif, d'acte de discours doté du pouvoir de créer ce à quoi elle réfère, et crée plutôt ce qu'il n'avait jamais voulu créer. Sa signification excédant tout référent visé. » Fin de la citation. Et il y a en effet retournement de la loi contre l'autorité qui la prononce, celle de Fist dans ce cas-ci, dans la série The Realm of the Elderlings. Donc à la fin de Fool's Fate, The Fool meurt, donc spoiler, malheureusement, et Yel est ramenée à la vie par Fitz, qui, en mélangeant la magie impure et animale du Wit avec celle légitime et royale du Skill, échange à ce moment de corps et de nom avec The Fool. Donc, dans Queer Magic, Robin Hobb and Fantasy's Literature, Radical Potential, Lenise Pratchett souligne que c'est cet échange temporaire qui permet à Fitz d'appréhender et d'accepter l'identité queer du fou. Cependant, cet événement n'est pas exempt de conséquences qui se manifestent principalement dans la dernière trilogie, The Fitz and the Fool, qui est publiée en 2014 et 2017. Donc, car, et ça c'est mon interprétation, mais c'est ce que j'apporte à ce que Pratchett dit, il n'y a pas eu échange de corps et d'identité, mais bien mélange. Et c'est ce qui illustre les derniers paragraphes du tome Fool's Quest. Donc, Fitz s'est perdu et éparpillé dans le dangereux fleuve que constitue la magie du Skill pour ceux et celles qui ne la maîtrisent pas assez pour garder leur contour identitaire étanche. Et va être amené de cette manière par Beloved. Beloved! The wood echoed through me, rebounded from my fraying edges, found and bound me. I was there, trapped in an exhausted, shrinking body. The fool's hand, his fingers gleaming silver, clutched my wrist, burning my identity into me. Donc, les barrières entre le self masculin, hétéronormatif du narrateur Fitz, et le self mouvement, altérisé du fool, tombent. Il y a mélange des substances, des corps, des identités. Beloved devient le prénom des deux personnages, leur through name commun. Les identités de ces deux personnages-là peuvent à partir de ce moment-là être produites, reproduites, rappelées de la même manière via le pouvoir performatif et détourné du nom. Ils sont unifiés et séparés, non plus l'un et l'autre, mais l'un dans l'autre, brouillés. Les frontières étanches, qui constituent le narrateur comme un sujet stable et masculin, sont abolies. C'est pas sans rappeler en fait l'analyse que fait Denise Pratchett dans de la magie dans The Realm of the Elderlings. Donc selon celle-ci, la magie dans la série défie les représentations hétéronormatives et genrées de l'identité. Les magies du Witch et du Skill peuvent être lues comme des métaphores queer qui contribuent à subvertir la notion de sujet étanche. Je cite ici Pratchett. Identities are not fixed. Queer relationships with the world and one another become possible as the magic of Hobbes' world undermines the simple distinction between the self and the not-self. Subjectivities can reside in multiple locations. Transferring the self to another being in bits and pieces necessarily implies that the self is not contained by the body, nor in any single embodied location. Donc, j'ajouterai à cela que dans l'écriture de Hobbes, l'identité et l'âme font corps. Donc, l'âme a une nature matérielle. Il n'y a pas de division binaire entre les deux, comme l'indique Mélanie Bosse-Fièvret dans Les âmes de Robin Hobb. Donc, ainsi, chez Hobb, si changer son corps signifie changer son identité, son self, changer son identité, la mélanger, a aussi un impact sur le corps. Donc, outre l'échange de caractéristiques physiques entre « the fit and the fool », donc je cite le titre de la dernière série de « the fit and the fool », je pense pas qu'elle s'appelle comme ça pour rien. L'une des conséquences les plus significatives de ce mélange est la naissance de Bee, enfant aussi blanche que l'était « the fool », aussi vive d'esprit que celle-ci, et partageant sa capacité à voir l'avenir. Donc, fille de Fitz, fille du fool, fille de la femme de Fitz, Molly, fille du loup Night Eye, avec lequel Fitz a également mélangé son identité. Donc, cet enfant, Bee, a ainsi non pas deux, non pas trois, mais quatre parents. La magie queer de The Realm of the Elderlings permet parallèlement la redéfinition de la parentalité hétéronormative. Donc, voilà.